Bonsoir et bonjour tout le monde, tous et toutes, à ce 39e épisode de La Tête à Papineau. Je me présente, Alex Thibault, directeur de Bistro Brain. Je suis fébrile à l'idée qu'on approche maintenant un 40e épisode. J'espère que vous l'êtes tout autant que moi. Le podcast a été lancé avant la pandémie, contrairement à bien des autres. Donc, on est vraiment fiers de la poursuite de ce podcast, qui est un petit passe-temps de notre équipe à l'interne. Basé à Sherbrooke, on dit merci encore une fois à CFAC. Je pense qu'on ne le fait pas assez souvent, là, mais qui nous prêtent leur local et leur matériel de production. Donc, petite mention spéciale pré-épisode 40. Donc, je fais un petit retour des derniers événements de Bistro Brain depuis l'enregistrement du 22 octobre pour l'épisode 38. On a eu quatre événements, beaucoup d'hors-série. Donc, on commence le 23 octobre, santé mentale à l'université, en collaboration avec l'ACFAS dans le cadre des journées de la relève en recherche qui avaient lieu à Sherbrooke. Et on a eu 101 personnes, vraiment une qualité de vulgarisation exceptionnelle. On avait entre autres Gabriel Duguay qui en était à sa deuxième présentation, avait présenté précédemment à Trois-Rivières. Donc, j'aime toujours ces événements-là, ça fait une belle boucle. La communauté se rassemble à travers différentes villes. Finalement, on a eu le peut-être dernier événement à Trois-Rivières, Démon Tourmé de Trois-Rivières. Si vous êtes à Trois-Rivières, vous entendez cet appel, soyez attentifs et attentives, puisqu'on cherche des collaborateurs, donc c'est pas une clé dans la porte, mais ça nous prend des gens pour faire les événements. Donc, si vous vous sentez concerné, ben, juste à nous envoyer un courriel à notre courriel info@bistrobrain.ca. Donc, il y avait également 50 personnes. Merci à l'équipe de Trois-Rivières d'avoir assumé cet événement. Ensuite, on a le 6 novembre avec Technologie du futur au Bac-et-Bière. C'était une collaboration avec le 3ET, l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Donc, on en était à une deuxième collaboration. Il y a eu 71 personnes présentes. Et en terminant, 12 novembre, la science des données, une autre collaboration avec une instance de l'Université de Sherbrooke dans le cadre de la grande campagne de la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Cette fois-ci, on était au Bac-et-Bière et on a vraiment sorti des sentiers battus, des thèmes connus. On a été originaux et on a eu même une présentation exceptionnelle de la part de ni plus ni moins Gaëlle La Jeunesse à ma gauche en ce moment. Merci encore une fois, Gaëlle.
Ça fait plaisir.
Encore une fois, si vous ne pouviez y être, on vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube donc qui est maintenant rendue à 42 000 vues. J'ai fait le compte pas plus tard qu'hier. Donc, allez voir ça, il y a vraiment beaucoup de matériel, il y en a pour toutes les curiosités. On revient à nos patins avec l'épisode d'aujourd'hui de La Tête à Papineau. On a aujourd'hui une chronique offerte par Marika qui va nous parler de.
Je vais vous parler des microplastiques.
J'ai hâte d'en entendre davantage. Et également, on a Gaëlle, pour ne pas dire son nom quatre fois encore en 2 minutes, qui a spécialement en entrevue aujourd'hui.
Je suis avec David Zukoski, président du ComSciCon Québec.
Ben, enchanté, David.
Enchanté.
On s'est déjà vu, mais c'est pour les bonnes manières. Les gens ne savent pas, ils pourraient penser que je suis impoli. Donc, moi, ce qui m'échappe, Gaël, c'est pourquoi tu t'empêches de rire. On est ici pour rire.
Mais c'est parce que je sais pas.
OK, ben, à travers cette confusion et cette incompréhension, on passe la parole à Marika.
Oui, merci Alexis. Donc, je vais commencer ma chronique en vous posant une petite question quiz. Donc, parmi les vêtements, les pneus et la peinture, qu'est-ce que ces objets ont en commun?
Les produits manufacturiers?
On est proche. Est-ce que vous avez d'autres idées?
La seule idée qui me vient en tête, c'est la bonne. Je peux-tu la dire?
Ben, c'est ça l'affaire.
On parlait de microplastique, hein, c'est ça?
J'ai un peu spoilé là, avec le titre de ma chronique, mais oui, si vous avez bien eu la piste à l'oreille, ils contiennent tous du plastique. Ce sont toutes de grandes sources de relâchement de microplastiques dans notre environnement. Vous connaissez peut-être l'élastane, le polyester, le nylon, qui sont très fréquents dans les fibres des vêtements synthétiques et qui sont des composés de matières dérivées du pétrole et donc de plastique. On a aussi le frottement des pneus sur nos routes qui va causer le relâchement de particules de plastique. Et finalement, même la peinture de nos bâtiments, qui contient souvent du plastique, va avec le temps, lorsqu'elle va s'écorcher, se désagréger, se retrouver dans nos cours d'eau. Donc, on a de nombreux objets que l'on utilise au quotidien qui vont éventuellement se dégrader et former ce qu'on appelle du microplastique. Ce sont des particules de plastique dont la taille est inférieure à 5 mm. Où pensez-vous que le microplastique est le plus présent? Est-ce que c'est dans l'océan ou sur la terre ferme?
L'océan.
Ben, tu parlais de cours d'eau tantôt, fait que peut-être l'océan.
je sais pas, microplastique, inamorce, pommousse, roule bien dans l'eau.
Exactement, non. Non, moi, j'ai en tête, on entend les îles de plastique, souvent dans l'océan, beaucoup de documentaires qui sont retrouvés. Mais non, ce serait plutôt dans le sol. Il y aurait entre 4 et 23 fois plus de microplastiques dans les sols et le microterrestre que dans les milieux marins. Une des causes, ce serait qu'on utilise, par exemple, la boue d'épuration en tant que fertilisant des sols. Donc, il y a un 80 à 90% des microplastiques qui sont contenus dans les eaux usées et qu'on essaie de filtrer avant d'utiliser comme fertilisant, mais qui vont rester dans cette substance que l'on va épandre dans nos champs. Donc, la présence de microplastiques dans les sols est préoccupante. Pourquoi? Entre autres parce que les microplastiques peuvent faciliter l'acquisition de la résistance aux antibiotiques par les micro-organismes qui sont contenus dans le sol et qui peuvent ensuite la transmettre aux plantes, aux animaux et aux humains. Donc, il y a des chercheurs qui sont intéressés à ce phénomène. Il y a une étude toute récente qui est sortie il y a 2 semaines à peine dans la revue Nature Communications, où des chercheurs chinois ont voulu étudier l'impact de la diversité des microplastiques sur les génomes des micro-organismes. Bon, donc, au lieu d'étudier une seule sorte de microplastique, ils ont étudié une diversité. Donc, ils ont donc introduit dans des échantillons de sol des microplastiques sous forme de poudre. Donc, certains échantillons ont reçu un type de microplastique, d'autres 3, et les derniers 6 différents types. Et les chercheurs ont trouvé que où la diversité de microplastiques était le plus élevée, donc dans l'échantillon où est-ce qu'on avait introduit 6 différents microplastiques, il y avait un plus grand nombre de copies de gènes de résistance aux antibiotiques dans les cellules des microbes. Donc, je vais vous expliquer un peu plus ce phénomène qui est intriguant. Donc, pourquoi on retrouve cette plus grande quantité de résistance qu'on a du microplastique? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des biofilms des bactéries?
Oui.
Ah oui, oui, pourquoi j'ai entendu parler de ça? Est-ce que c'était à la nuit des chercheurs de la semaine passée au Musée de la nature des sciences de Sherbrooke?
Très possible, présenté par qui?
Ah oui, oui, c'est exactement à l'une des chercheurs du Musée de la nature des sciences de Sherbrooke la semaine passée. Il y avait une présentation donnée par, j'ai oublié le nom, mes excuses à la personne qui était là, mais je me souviens, c'est quoi un microfilm?
Un biofilm.
Un biofilm. Merci, la personne qui donne un cours à 100 combien de personnes?
On a des microplastiques, des micro-organismes, je comprends que c'est confondant, c'est ce qui nous vient, c'est le préfet qui nous
vient. Mon père est photographe, donc ça va être ça qui m'est venu à l'esprit.
Et on est devant un micro en plus, je te pardonne.
Microfilm.
Ne pas confondre avec le micro-cerveau qui a été remporté par qui d'autre déjà?
Par Alexis lui-même.
Vous allez voir ça, présentation YouTube, Alex Thibault au Bistrot Duel. Bon, trêve de pub sur la bande, on laisse la parole à America.
Oui, donc pour ceux qui connaissent un peu moins les biofilms, en fait, ça peut être un mécanisme de protection pour de nombreux micro-organismes. Donc, les microplastiques qui sont de couleur, de forme, de taille ou de composition variable offrent en fait une surface de contact sur lesquelles les micro-organismes présents dans l'environnement peuvent s'accrocher. Ces micro-organismes peuvent inclure des protozoaires, des algues, des champignons, des bactéries, des virus. On se rappelle la présentation que Gaëlle nous avait faite sur les différents types de micro-organismes. Mais il n'y a pas que ces micro-organismes qui aiment adhérer aux parois des microplastiques. En fait, il y a aussi les polluants et les antibiotiques. Si on a les deux qui s'accumulent à la surface du biofilm, cela crée un milieu dans lequel il peut y avoir une pression de sélection pour l'acquisition d'une résistance à l'antibiotique. En fait, les communautés de microbes attachées à une surface ont 1000 fois plus de chances de développer une résistance à un antibiotique que des microbes qui sont libres dans leur environnement. Donc, la formation de biofilms à la surface des microplastiques, c'est un lieu où se forme une couche stable dans laquelle le transfert de gènes entre les micro-organismes est également favorisé. Donc, ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes, donc c'est un transfert de gènes un peu entre deux amis ou deux sœurs, plutôt entre le parent et l'enfant, si on peut faire la métaphore avec les humains. Donc, c'est un transfert de gènes qui peut être facilité par des éléments génétiques mobiles. Donc, ça peut être, pour ceux qui connaissent un peu plus la génétique, des éléments transposables, mais également des plasmides. Donc, un plasmide, c'est une structure d'ADN circulaire que l'on va retrouver dans l'ADN de la cellule, mais hors de l'ADN chromosomique. Donc, L'ADN principal qui va coder l'ADN pour nos cellules va se retrouver dans le noyau, dans l'ADN chromosomique. Mais on a également l'ADN sous forme circulaire qui va un peu graviter dans la cellule et qui va être une source de gènes et qui va pouvoir éventuellement s'intégrer au génome ou rester là. Donc, c'est une porte d'entrée pour de nombreux nouveaux gènes dans la cellule. Et donc, si un gène de résistance à l'antibiotique se trouve sur ce plasmide, ce cercle d'ADN, il ne suffit que de transmettre ce cercle magique pour transmettre le gène de résistance. Donc, en résumé, imaginez-vous une bactérie qui s'accroche aux parois d'un morceau de gobelet de plastique qui a été dégradé et qui se retrouve à côté d'un antibiotique qui est également accroché aux parois. Les conditions sont alors favorables pour un transfert du gène de résistance. Et lorsque le microplastique se dégrade, la bactérie 2.0 peut alors être relâchée dans l'environnement.
OK, puis ce serait quoi les risques de ce relâchement-là? C'est pas comme un dépotoir à ciel ouvert, t'sais, comme des faux sceptiques de bactéries, je sais pas comment ça se passe, là, mais quel risque encourt-on avec ce nouveau gène-là?
En fait, ce qui devient préoccupant, c'est si les micro-organismes sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer des maladies. Donc, les chercheurs de l'étude que je vous mentionnais un peu plus tôt ont remarqué que différentes conditions, comme l'utilisation de fongicides, donc un type de pesticide dans les champs, ou une faible diversité des plantes hôtes, peuvent augmenter l'abondance de ce qu'on appelle les facteurs de virulence dans les gènes des bactéries. Si on réunit un facteur de virulence, donc un élément génétique qui va permettre à la cellule d'être pathogène, donc si on réunit un facteur de virulence qui peut éventuellement permettre la transmission de maladies, avec un gène de résistance à un antibiotique, eh bien, on obtient un micro-organisme pathogène qui possède une résistance à un antibiotique. Quelque chose de vraiment pas très souhaitable dans notre monde. Donc, cette présence de microplastiques dans l'environnement devient un enjeu pour la santé publique, puisque ça peut nuire au traitement des maladies.
Et est-ce que la présence des microplastiques augmente la persistance des antibiotiques?
C'est une bonne question. Peut-être. Ce serait une hypothèse. Je n'ai pas lu spécifiquement là-dessus, mais ça ferait du sens.
Mais l'article, dans le fond, était spécifiquement sur la bactérie, comment est-ce que les microplastiques augmentaient les facteurs de virulence chez les bactéries?
Oui. À quelle fréquence on les retrouve, les différents facteurs de virulence, la présence d'éléments génétiques, puis la présence du gène de résistance à l'antibiotique. C'était très axé génétique, cet article-là. Voilà.
Cool. Merci.
Mais par simple hypothèse, si je peux me permettre, là, s'il y a une pression de sélection dans les biofilms, les bactéries vont garder les gènes de résistance aux antibiotiques, même par après, comme une fois comme plus dans le biofilm ou dans un autre environnement, même si les microplastiques sont plus là.
Je me demandais en fait, est-ce que l'article était plus spécifique sur la transmission? Est-ce que dans le fond, les microplastiques augmentent la capacité des bactéries à garder justement le plasmide, ou est-ce que en plus de ça, les antibiotiques restent accrochés aux particules de microplastiques, comme il y aurait un double effet qui amplifierait dans le fond? Je sais pas, je me demandais.
J'émettrais l'hypothèse que c'est juste une question d'environnement favorable, plus que d'effet direct des microplastiques, selon mes connaissances.
Et mais là, Marco, est-ce que les scientifiques ont toutes les preuves en main pour conscientiser les gouvernements à prendre action puis instaurer un peu des normes d'utilisation de ces nouveaux plastiques?
Mais comme l'article au niveau génétique, on a beaucoup d'avancées. Donc, on connaît spécifiquement l'introduction d'un microplastique, quel impact ça peut avoir sur la fréquence de certains gènes dans la cellule chez différentes espèces. Mais au niveau de l'impact des microplastiques sur les écosystèmes, donc vraiment dans un environnement marin, par exemple, d'eau douce ou d'eau salée, il y a plus de travail à faire. Puis je suis tombée sur un épisode de La Semaine verte qui parlait d'une chercheuse de l'Université de Toronto, donc une écologiste aquatique, qui réalise présentement une expérience dans un laboratoire naturel. Donc, dans un petit lac en Ontario, ils vont introduire 3 types de polymères dans un lac qui n'a pas encore été touché par l'impact humain aujourd'hui. Donc, c'est en quelque sorte polluer un lac pour la science, mais vous allez voir, c'est pour une bonne cause. On pourrait débattre sur le sujet, néanmoins. Donc, ils vont introduire des billes jaunes, roses et bleues Donc, des résidus de polyéthylène, des résidus de gobelets de plastique ou un autre qui est un plastique issu de bouteilles d'eau. Et donc, l'idée, c'est de reproduire dans ce lac les concentrations de microplastiques qu'on retrouve dans d'autres grands lacs. Donc, les chercheurs vont suivre pendant 10 ans les plantes, les invertébrés, les poissons, afin d'étudier les impacts des microplastiques sur les différentes espèces et peut-être mener à instaurer des nouvelles réglementations. Donc, peut-être que ça pourrait mener à une loi qui pourrait obliger d'installer des filtres sur nos laveuses, donc afin d'éviter le relâchement des fibres de vêtements de plastique dans l'environnement. Parce que, je le rappelle, les microplastiques peuvent contribuer à la création de résistance aux antibiotiques. Donc, pourquoi pas utiliser plusieurs moyens pour prouver les différents impacts qu'ils peuvent avoir autour de nous.
Donc, on ne se ramassera pas avec tous ces microfilms, biofilms, avec des poissons mutants qui prennent des photos avec leurs lanternes?
Pourquoi pas? Ce serait souhaitable.
Ben oui, let's go, l'évolution par sélection artificielle. Marca, merci beaucoup pour ta chronique. Quand est-ce qu'on te revoit au podcast? Est-ce que tu sais vite comme ça? Ou?
Dans deux ou trois épisodes, je crois.
Fait que le 41e ou 42e. Parfait. Ben merci d'avoir été les nôtres. Puis on t'invite à interagir tout le reste si t'as des questions pour David. On va aller prendre une petite pause, reposer nos cerveaux. On se revoit dans 2 minutes. Alors, on est de retour pour ce 39e épisode de La tête à Papineau. On passe maintenant la parole à Gaëlle, coordonnatrice Bistro Brain à Sherbrooke, qui va recevoir l'entrevue David. Donc, je te laisse la parole.
Merci, Alexis. Je me sens vraiment choyée d'être au podcast avec toi. J'ai l'impression que tu fais juste me lancer des fleurs depuis tantôt.
C'est bien le rôle d'un directeur d'OBNL, c'est d'envoyer des fleurs à toute l'équipe.
Parfait. Merci, merci, Alexis. Je le prends. Donc, j'ai en entrevue avec moi aujourd'hui David, qui est candidat à la profession d'ingénieur, en plus de faire un doctorat en génie chimique à Polytechnique Montréal, en collaboration avec l'Université d'Ottawa. Il est aussi très impliqué dans le domaine de la communication scientifique, surtout auprès de la série d'événements ComSciCon Québec. David a d'ailleurs participé à l'édition 2022 du ComSciCon Québec, puis a intégré l'équipe organisationnelle en 2023. Il a été co-directeur en 2024 et est maintenant président cette année. Tout un CV. Donc, avant de parler plus de communication scientifique puis du ComSciCon, David, je voulais savoir comment ça se passe, ton doctorat, puis peux-tu expliquer rapidement ce sur quoi tu travailles pour notre auditoire?
Mon doctorat, ça va quand même super bien. Là, en ce moment, je suis dans une période vraiment stressante de mon doctorat. Là. Je suis en train de passer l'examen de synthèse. Donc, c'est ça. J'ai pas beaucoup de temps, puis tu le sais, Gaël, toi aussi, tu l'as passé récemment. Là, fait que c'est ça. C'est quand même assez intense. Moi, comment ça s'est passé, c'est que j'ai fait un stage à la fin de mon bac avec Jamal Chauqué, qui est professeur à l'Université Polytechnique Montréal en génie chimique. Puis, on m'a mis sur un projet de biolixiviation, puis le but, c'était de prendre des micro-organismes puis de retirer des métaux lourds dans des engrais phosphatés. Donc, j'ai fait un stage là-dedans de 4 mois, puis j'ai comme un peu accroché avec la recherche à partir de là. Ça s'est transformé, il y a une partie du projet qui s'est transformée en projet de maîtrise, mon projet de maîtrise. Puis après 2 ans, j'ai décidé de faire un passage au doctorat. Puis là, ben, je suis dans ma première année de doctorat. Fait que,
donc parcours. Finalement, on fait quand même parallèle avec la chronique de Marika qu'on vient juste d'avoir. Là.
Oui, quand même. Puis même si on veut parler de plasmides, on veut parler de... ça, je peux en parler pendant longtemps.
Ben, maintenant, pour parler un peu plus de communication scientifique, David, qu'est-ce qui t'a mené, toi, à faire de la communication scientifique?
Ben, on peut reculer vraiment, vraiment loin de mon parcours en communication scientifique. En fait, je dirais que je donnerais les fleurs à mon grand-père, qui, très, très jeune, m'a... En fait, il a juste semé des graines. Il achetait des revues Science et Vie. Il achetait des revues Québec Science. Puis, il nous avait même inscrits au Cosmodôme de Laval, au camp spatial du Cosmodôme de Laval, moi puis mon frère, pour... juste pour nous faire vivre des expériences. Puis, je reviens aux revues, là, par exemple, dans les revues, ce que je faisais quand j'étais jeune, tu vois, à 10 heures le soir, quand tes parents te demandent d'aller te coucher, là, ben, comme j'ouvrais des revues avec une petite lumière, puis je lisais des articles sur toutes sortes d'affaires, genre la quantique, puis la téléportation quantique, toutes sortes de trucs. Puis là, j'avais mon téléphone avec Wikipédia à côté, puis j'essayais de comprendre qu'est-ce que les mots voulaient dire. Je me rappelle de sauter de page en page sur Wikipédia, puis d'essayer de comprendre des articles. C'est ça, un peu grâce à mon grand-père là, qui laissait traîner des revues un peu partout puis qui essayait de nous Fait que c'est ça. Ben, déjà, il y a ça. Après, je me rappelle au cégep aussi, on avait un projet. J'étais en sciences et très rares au cégep à Sherbrooke. Puis, on avait un projet de communication scientifique à faire. Puis, j'avais monté pour des élèves de deuxième année du primaire des explications sur la thermodynamique. Fait que, ouais, on est allé là, j'avais passé une avant-midi avec eux autres, puis ça avait été super bien reçu. Fait que, c'est ça. Ça a tout le temps été comme un peu en satellite autour de ma vie.
Ça a toujours fait partie de ta vie, finalement. Vraiment. La science et la communication scientifique.
Ouais.
Fait que j'imagine que c'est ce qui, de fil en aiguille, t'a mené finalement à faire partie du ComSciCon. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est exactement le ComSciCon Québec?
Ben écoute, moi, comment j'ai vécu le ComSciCon au début, c'est que j'ai reçu un courriel à un moment donné sur mon courriel de l'université, puis ça disait « formation en communication scientifique », il y a des... c'est un concours, fait que tu remplis un formulaire, puis tout ça, puis si t'es pris, tu fais partie des 50 chanceux participants, ben tu vas pouvoir te faire former pendant 3 jours gratuitement, nourriture payée, formation payée, transport payé, tout payé.
Tout le kit payé.
Puis j'avais postulé. Puis finalement, ma candidature n'avait pas été prise au début, mais une de mes amies, Billy, qui est d'ailleurs dans le comité du ComSciCon, elle avait eu un imprévu, puis la place était tombée sur moi, fait que finalement, j'ai pu y aller. Puis en gros, le ComSciCon, c'est quoi? C'est, ben, t'es un étudiant des études supérieures, généralement, puis t'as envie de te faire, t'as des petits projets en tête peut-être de communication scientifique ou c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu rentres dans l'environnement ComSciCon, si on veut. Là. Dans le fond, le ComSciCon, c'est une série d'ateliers qui est vraiment visée aux élèves, aux étudiants des études supérieures. Puis le but, c'est de former ces étudiants-là à la communication scientifique puis de leur donner des outils, en fait, pour qu'ils soient capables de mieux naviguer dans leur travail, dans leur projet de recherche ou dans différents projets personnels qu'ils aimeraient mener à bien.
Puis là, maintenant, tu es rendu président de cette organisation-là. Est-ce que tu as des plans pour le futur du ComSciCon Québec?
Bien, à la base, le ComSciCon Québec, c'était... Bon, on va chercher 50 étudiants par année à peu près de différentes universités. On leur donne, comme je disais, des outils de communication scientifique pour leur permettre ça, de se développer. Puis on leur donne aussi accès à... C'est un gros réseau, le ComSciCon. C'est un réseau de contacts, c'est un réseau d'amis. Il y a plein de gens qui ont des idées de projets, qui vont rencontrer d'autres personnes qui ont des idées de projets, puis il y a des projets qui vont émerger de ça, de différentes rencontres. Le but dans les prochaines années, c'est vraiment d'aller essayer d'amplifier ce facteur-là de collaboration, puis d'aller chercher le plus de collaboration possible avec d'autres instituts. Par exemple, là, je suis dans des démarches avec l'Université d'Ottawa, qui peut-être ferait partie des universités francophones qui embarqueraient avec nous. On le sait que le ComSciCon Québec est un peu une porte d'entrée pour beaucoup de gens en communication scientifique. Tu sais, les gens qui sont à la maîtrise puis au doctorat, c'est ceux à qui on fait confiance pour partager la science, généralement. C'est ceux qui ont des études, c'est ceux qui sont vraiment... qui ont donné une partie de leur vie pour essayer de comprendre des concepts fondamentaux. C'est des gens à qui on fait confiance pour partager la science. Puis je trouve que c'est important de donner des outils à ces gens-là pour qu'ils soient capables de communiquer leur science de manière transparente à leurs proches, au public, puis tout ça. Après...
Ce qui est en fait la mission du ComSciCon.
Oui, c'est ça, c'est la mission du ComSciCon. Puis là où je veux amener le ComSciCon avec tout ça, c'est d'essayer de capitaliser là-dessus, dans le fond, puis de connecter le plus possible les gens avec les différents instituts au Québec qui font de la communication scientifique.
Donc, au final, le ComSciCon Québec, c'est vraiment pour des personnes étudiantes graduées en sciences, dans tous les domaines scientifiques, donc des gens qui font de la recherche, finalement. Pour toi, c'est quoi l'importance de cette communication-là scientifique, plus précisément dans le domaine de la recherche?
Moi, il y a mon professeur qui me dit toujours, si tu n'es pas capable d'expliquer un concept dans 30 secondes, tu ne comprends pas ton sujet. Tu ne comprends pas réellement ton sujet. Fait que je trouve que la communication scientifique, c'est une compétence... qui n'est pas juste une compétence transversale de côté, mais qui est une compétence qui émerge d'une réelle compréhension de ton sujet. C'est pas applicable à tout le monde. S'il y a des gens qui font de la communication, qui ne sont pas nécessairement spécialistes dans le domaine, mais qui vont quand même faire la communication pour parler au grand public. Mais en tant que chercheur, le fait d'être capable de bien communiquer, ça montre aussi un certain niveau de compréhension. Puis je pense qu'on a un devoir aussi comme chercheur. Généralement, les chercheurs, on est payés par des fonds publics ou par des entreprises. Puis dans tous les cas, c'est vraiment important d'être capable de bien le communiquer. T'sais, les gens qui nous payent, ben, il faut qu'on soit capable de redonner l'argent qu'on nous a donné à la communauté. Puis même si c'est une question d'entreprise, par exemple, mon projet est en collaboration avec une entreprise, eh bien, toujours, on va avoir à reparler avec cette entreprise-là puis à les convaincre que la recherche qu'on est en train de faire, elle est pertinente pour eux. Puis il faut qu'on soit capable de leur expliquer pourquoi c'est pertinent puis comment ça fonctionne pour être capable d'aller un peu plus loin puis de continuer, tu sais.
Définitivement, définitivement. Mais tu disais au début, tu sais, tu es dans une période stressante de ton doctorat. Ouais. Comment est-ce que tu fais, toi, pour être capable de balancer tout ça, finalement, tes études graduées, en plus de développer ces compétences-là qui sont essentielles en communication?
C'est une excellente question. Il n'y a pas rien de magique dans la façon d'organiser un horaire. Tu sais, je pense à mon prof à un moment donné qui m'est arrivé puis qui m'a dit « Je reçois plus de... » C'était-tu 200 courriels par jour? Puis à chaque fois, je réponds à chacun des courriels. Puis ce qu'il fait, c'est qu'en fait, aussitôt qu'il reçoit un courriel, il répond. Puis il laisse rien traîner dans sa to-do list, un peu comme toi, Gaël, qui fait 10 000 choses en même temps.
Ouais.
Mais c'est ça. Tu sais, le fait de gérer les choses au fur et à mesure, ça permet de te décharger mentalement des différents trucs que tu as à faire. Fait que, par exemple, pour le ComSciCon, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans le comité du ComSciCon, je réponds tout de suite. J'en fais une priorité presque numéro un parce que je ne veux pas que ça reste dans mon esprit. Mm-hmm. Puis aussitôt que ça s'est réglé, je suis capable de passer à mes autres tâches. T'sais. Après, c'est vraiment une question de structure puis d'organisation. Mais on est capable d'en faire beaucoup, je pense. Puis aussi, je veux dire, faut dire qu'on est un gros comité, là, comme SciCon. Là. On est 20 personnes, je n'organise pas ça tout seul. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là. Moi, l'avantage que j'ai, en fait, la raison, je pense, pour laquelle j'ai pris le poste de président, c'est parce que je suis là depuis longtemps, puis j'ai une vision plus reculée de c'est quoi le ComSciCon, mais le concret, le day-to-day, le jour, ben c'est pas vraiment moi qui le fais, c'est une équipe en qui j'ai confiance, puis je pense que la confiance est réciproque, puis quand il y a un problème, ben moi, je suis là pour les aider, puis pour y répondre, pour les aider à prendre des décisions qui sont des fois un petit peu... Tu sais, quand on arrive devant une décision, puis que, OK, on prend-tu A, on prend-tu B, ben avec une vue un peu reculée, ben c'est plus facile de prendre une décision. Puis après ça, mais tout le monde est capable de continuer d'avancer. T'sais. Fait que je suis pas tout seul là-dedans non plus.
Donc au final, c'est un beau travail d'équipe. Ouais. C'est de prendre le temps de le faire, finalement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, ouais, de prendre le temps de le faire puis d'être clair dans ses objectifs, de nommer ses objectifs, de nommer ce qu'on veut. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose d'assez particulier que j'ai réalisé dans ma vie récemment. J'ai décidé que je voulais être prof. Puis je le dis aux gens que je veux être prof. Puis c'est vraiment spécial la façon que les gens réagissent autour de toi. Par exemple, avec mes parents, je leur arrive puis je dis, du jour au lendemain, je leur ai arrivé puis je leur dis, OK, je vais être prof. Puis tout d'un coup, on dirait que la façon qu'ils me perçoivent, la façon qu'ils vont interagir avec moi, ils vont être plus dans un mode... je vais essayer de t'aider à accomplir tes objectifs. Puis la même chose avec tes collègues de travail, autant d'autres étudiants ou avec tes professeurs, quand tu leur dis, quand tu leur donnes tes objectifs, bien eux, après ça, ils sont comme, OK, comment je peux faire pour l'aider à atteindre ses objectifs? Puis plus que ça avance, puis plus que je suis clair dans ce que je veux faire, bien plus que j'ai l'impression d'avoir du support de tout le monde autour de moi qui me dit, OK, bien tu veux arriver à cet objectif-là? Tiens, voici des outils. Ouais, ouais.
Donc, avant de finir, David, quelles sont les dates importantes à retenir pour le ComSciCon Québec 2025?
La première date importante pour les étudiants des études supérieures, soit la maîtrise ou au doctorat, c'est le 8 janvier, où on ouvre les candidatures pour participer à l'événement officiel du ComSciCon Québec. Ne manquez pas ça. On vous offre une formation gratuite sur la communication scientifique avec des experts, nourriture payée, transport payé, bouffe payée, tout est payé. Une fois que vous avez soumis votre candidature, on passe au travers d'un processus de sélection. L'événement aura officiellement lieu entre le 6 et le 8 juin.
Ah, moi, j'aurais une question aux gens autour de la table, parce que en ce moment, je suis la seule personne qui n'a pas assisté comme participant au ComSciCon Québec. J'aimerais ça vous entendre, Gaël, Marca, puis David, sur à quoi ça ressemble une journée type? Et comment décririez ça à quelqu'un qui n'a pas été participant dans sa vie?
Moi, je précise que j'ai fait l'édition en ligne. Donc, on n'avait pas le transport payé, la nourriture payée. J'aurais bien aimé, mais bon, profitez-en quand c'est de retour en présentiel maintenant. Mais moi, je trouvais que c'était la production d'un... moi, j'avais fait un balado. On a un accompagnateur qui nous donne des commentaires et tout, mm-hmm. vraiment concret pour mener le projet. Puis ça m'avait... J'étais ressortie de l'événement avec mille et une idées, là, super motivée à se lancer. Ça,
je wow, super.
Un gros, gros plus.
Merci, Gaëlle. Petite ouais, impression à partager?
Ben oui, définitivement. Le ComSacon, c'est vraiment axé sur la pratique. Il y a des panels de discussion avec des personnes expertes dans différents milieux. Les sujets de ces panels changent d'année en année, mais il y a aussi des ateliers qui sont vraiment axés là, sur la pratique pour donner, comme le disait David, des outils concrets aux personnes participantes. Puis, comme le mentionnait Marika, en amont, là, avant la conférence, on demande à toutes les personnes participantes de produire un essai de vulgarisation scientifique, que ce soit sous forme de texte, de vidéo, de balado, en fait, le format de votre choix. Puis ça va être révisé non seulement par vos pairs, mais aussi par des personnes expertes en communication scientifique, ce qui permet vraiment là, de vous mettre les deux mains dedans, puis de l'essayer finalement, la communication scientifique. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de savoir que j'aimais ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait rencontrer Alexis et qui fait que je suis aujourd'hui coordonnatrice de l'équipe de Sherbrooke de Bistro Brun. Donc, n'hésitez pas, là, même si vous ne savez pas si c'est pour vous la communication scientifique, c'est vraiment l'occasion de le découvrir. Donc, dernière petite question pour toi, David. Selon toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique au Québec?
Je pense que la vulgarisation scientifique devrait être présente au moins avec tous les gens qui partagent la science, que ce soit les professeurs, les enseignants, les étudiants aux études supérieures. Même en entreprise, c'est quelque chose de super important pour les ingénieurs aussi. T'sais, on a un besoin grandissant de communiquer. L'information est un peu partout, mais l'information est chaotique. Puis d'être capable de prendre l'information, de la trier, puis de redonner au public l'information qui est vraie, qui est pertinente, c'est quelque chose qui devrait être généralisé. Ça devrait être une pratique commune de toute personne qui transmet de la science ou qui partage la science. C'est quelque chose de vraiment fondamental puis de pertinent. Puis comme je le disais tantôt, ça montre aussi ton niveau de compréhension sur ton propre sujet de recherche. D'être capable de dire en quelques secondes sur quoi tu travailles, c'est quelque chose de... hyper pertinent. Fait que je pense que ça devrait être un peu partout.
Parfait. Ben, merci beaucoup, David, d'avoir été des nôtres ce soir et de nous en avoir appris un peu plus sur le ComSacon et sa mission.
Merci beaucoup.
Ce qui met fin à notre 39e épisode de La tête à Papineau, merci à tous et à toutes qui ont contribué, David, qui ont été interviewés, fait de la route notamment. Pas la seule raison pourquoi il est à Sherbrooke, mais on le remercie quand même. Marika, pour ta chronique sur les microplastiques, et Gaëlle, pour avoir posé des questions vraiment tout autant original et parfois même difficile pour notre invité. On va quand même faire travailler un peu son cerveau. Donc, on vous invite aux prochains événements d'ici notre prochain épisode. Il y aura trois événements. Le premier, c'est le 4 décembre à 17h au Bac et Bière, communication scientifique pour le grand public. C'est le titre de l'événement. C'est notre quatrième collaboration avec le Centre de compétences Recherche Plus, avec Olivier Robin et Sophie Malavoie. On poursuit le 11 décembre à Montréal, à 18h, au pub de l'Île-Noire avec l'événement Économie circulaire. Cette fois-ci, c'est la deuxième édition de la collaboration avec le regroupement de recherche en économie circulaire du Québec. Donc, il n'y a pas juste les microbes, les ADN qui sont circulaires, il y a aussi les économies qui sont circulaires. Et finalement, le 8 janvier 2025, à 17h, au Bac et Bière, Persévérance scolaire, c'est une première collaboration avec la faculté d'éducation, cette fois-ci, avec le laboratoire de Gabriel Garon-Carrier, découverte scientifique de l'année 2024 qu'on avait reçue aux grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke l'an dernier. Donc là-dessus, on souhaite une très bonne fin de soirée, fin de journée, fin de lavage, vaisselle, qu'importe, jogging peut-être, et on souhaite, bien sûr, comme toujours, une bonne science.
Merci Alexis.
Pas de bonne science.
Pas de bonne science. Bonne science.
Bonne science.
Bonne science.
Et voilà.